Bonsoir, comment allez-vous? Avez-vous remarqué qu'en cette fin d'été, nous sommes encore bronzés? Et le bronzage va à tout le monde. Fut un temps où c'était le contraire. C'était la pâleur qui embellissait un visage. Avons-nous changé de goût? Nous avons plutôt changé de vie. Ce ne sont plus les besogneux, mais les vacanciers qui sont bronzés. Le bronzage nous plaît parce qu'il induit la détente, la nature, la joie. Le bronzage humanise les pires. Votre super supérieur dans son costume noir, son bureau gris qui vous fait signer des contrats cousus d'arnaque, il est bronzé. Ça veut dire qu'un jour, il a rigolé les fesses dans une flaque d'eau, attendant la marée derrière un château de sable, une pelle en plastique rose à la main. Et l'autre là, la méchante, l'injuste, la menteuse, la chéfaillonne qui fait pleurer ceux qui ne démissionnent pas, elle est bronzée, même les jambes. Elle a ramassé des mirabelles dans un short à franges, elle a fait une tarte pour ses amis, elle a des amis.
Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir comment on fait des amis, parce qu'on ne peut pas leur dire bonjour, à partir de maintenant, t'es mon ami. Alors merci de me répondre, au revoir.
Elle est formidable la question de Nina, parce que tout le monde se la pose, hein, quel que soit son âge. Nina, c'est Boris Cyrulnik qui vient d'écrire « Les vilains petits canards » aux éditions Odile Jacob, qui va te répondre.
Alors, Nina a totalement raison, c'est une question fondamentale. On ne peut pas vivre sans amis et on ne sait pas comment il faut faire. On ne fait pas une déclaration d'amitié. On peut faire une déclaration d'amour, c'est assez difficile à faire, et on ne fait pas une déclaration d'amitié. Et pourtant, on l'a fait quand même, mais on l'a fait en dehors, à l'occasion des mots. Alors, on s'approche des gens et on commence par dire des banalités. Il fait beau, je le vois bien qu'il fait beau. Et puis, on regarde comment ils sont habillés, on regarde comment ils répondent. Et puis eux, ils nous regardent comme nous, on les regarde. Et puis petit à petit, on se met à parler de ce qu'on a fait la veille. Et ces banalités sont très importantes parce qu'elles permettent de sentir, d'éprouver l'autre. Est-ce que vraiment j'ai envie d'être ami avec lui ou avec elle? Ou est-ce qu'après deux phrases, il va me crisper et je vais être obligé de partir parce que je me rends compte que j'ai pas envie d'être ami? Et cette lenteur de l'amitié avant la parole, fait que, même si on le dit pas, c'est dit à l'occasion des comportements, des invitations, des échanges, des cadeaux, des rigolades, et finalement, on sent clairement qu'on est ami ou pas, alors qu'on n'a jamais fait une seule déclaration d'amitié.
Mais je me demande, Boris Cyrulnik, si Nina n'est pas intriguée par ce phénomène qu'on voit à l'école et partout, là où il y a plusieurs enfants, c'est que certains ou certaines se font beaucoup d'amis très facilement, ils invitent à jouer très facilement, ils parlent très facilement, et d'autres, ils n'y arrivent pas. Alors c'est un peu douloureux parce que ceux qui n'y arrivent pas ont autant envie que les autres d'avoir des amis.
Alors, ceux qui ont du mal à avoir des amis sont souvent ceux qui n'ont pas assez confiance en eux parce que dans leur petite histoire, il y a eu des difficultés. Donc ça peut venir d'eux, ça peut venir de malheurs familiaux, ça peut venir de difficultés fréquentes, des difficultés sociales, de difficultés affectives chez les parents ou dans la famille. Et ça fait perdre un peu confiance aux enfants. Donc ces enfants se mettent en périphérie dans une classe, ou dans une crèche, ou dans une cour d'école, et ils soutiennent pas le regard, et ils ne vont pas vers l'autre parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux pour aller vers l'autre. Et les autres les voient en périphérie, et ils disent, ils veulent pas nous parler, ils se mettent à distance parce qu'ils ne veulent pas nous parler, donc ils les laissent en périphérie, et ils ont tort parce que ces enfants ont envie de communiquer, mais ils ont peur, ils n'osent pas s'affirmer, ils n'osent pas prendre leur place parce que chez eux, il y a une petite difficulté affective ou sociale.
Même chose pour les enfants un peu agressifs alors. Parfois, il y en a qui sont un peu agressifs, qui ont aussi envie de se faire des amis que les autres, mais comme ils sont un peu agressifs, ça se passe pas très bien là.
Alors, il y a bien sûr, les enfants agressifs sont souvent des enfants où il y a une difficulté dans la famille. Et c'est une difficulté affective ou sociale la plupart du temps. Et les enfants réagissent à ça, ils sont crispés, ils sont tendus, et on s'approche d'eux, et ils répondent par l'agression, alors que nous, peut-être, on n'avait pas du tout l'intention d'être agressifs. Mmh. Et le résultat, c'est que c'est des enfants qui sont difficiles à aimer. Donc, ils restent dans leur coin, ils deviennent encore plus agressifs ou encore plus isolés, donc ça les aide pas. Mais c'est vrai que comme ils sont pas faciles à aimer, on a des difficultés à établir avec eux des relations.
Mais c'est mal fait, parce que ce sont ceux qui sont le plus difficiles à aimer, qui peut-être auraient le plus besoin d'être aimés si déjà ils s'aiment pas trop eux-mêmes.
Absolument, mais la vie n'est pas toujours juste, hein, elle est même souvent injuste, et que les enfants les plus épanouis sont ceux qui rient, qui sourient, et qui souvent apaisent. Par exemple, dans les crèches, il y a toujours un casque bleu. C'est-à-dire, c'est généralement un petit garçon qui, quand il y a une bagarre, arrive, raconte une histoire, fait les mimiques, lève la main mais ne frappe pas, symbolise avec une main, avec un mot, et généralement c'est lui qui ramène la paix. Et il y a toujours un casque bleu dans les crèches. Et très souvent, quand il y a un enfant périphérisé, c'est une petite fille qui va chercher l'enfant périphérisé et qui s'approche et qui lui offre un bout de fruit mâché ou un bout de chocolat, et puis un échange de ficelles. Il y a un échange, et à l'occasion de cet échange, les mots suivent, et puis ensuite, l'enfant est intégré dans le groupe. C'est-à-dire que ces petits casques bleus ont une fonction d'apaisement du groupe et ces petites filles psychothérapiques ont une fonction d'intégration dans le groupe.
Avez-vous remarqué comme la voix de Boris Cyrulnik est douce? Et on se fait à chaque fois la même réflexion. Rien que de l'entendre, nous sommes apaisés, ça tombe bien. Puisqu'il est psychiatre et également éthologue, vous pouvez aussi le lire, vous n'entendrez pas sa voix, mais vous bénéficierez de ses propos. Les références de ses livres sont bien sûr sur le site des Petits Bateaux.
Je m'appelle Michel, j'ai 14 ans et j'aimerais savoir, parce que paraît-on dans les restaurants, on fait un service à la russe, donc j'aimerais savoir ce que ça signifie. Merci.
C'est Jean-Pierre Poulin qui va te répondre. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, un service à la russe.
Ah, c'est simple. C'est manger tous la même chose, avec des plats qui se succèdent les uns après les autres. Le manger à la française, qui prévaut jusqu'au milieu du 19e siècle, on met des plats sur la table. Les plats sont plus ou moins importants, un peu comme en Chine. Chacun se sert.
D'accord. Comme il veut, quand il veut.
Absolument. Parce que le service à la russe, c'est une mise en scène de l'égalité. Auparavant, on met en scène la hiérarchie sociale. Parce que les tables de l'aristocratie en France sont des tables ovales, dans lesquelles il y a des positions qui sont des bonnes places. Quand je suis au milieu, j'accède à plein plat. Quand je suis un petit marquis en bout de table, j'ai juste quelques hors d'œuvre. Il faut que j'attende que les personnages importants de la table prennent les plats et me les fassent passer. Quelle humiliation, oui. Imaginez. Alors que service à la russe, eh bien c'est un service égalitaire. Alors pourquoi la russe ? Curieux, parce que les Russes, à cette époque, ils n'ont pas fait la Révolution. En réalité, après la Révolution française, les chefs français, qui travaillaient pour les grandes maisons aristocratiques, montent des restaurants, ils sont un peu sur le pavé. Alors, pour certains, ils partent à l'étranger avec leur maître, qui fuit la France. D'autres ouvrent des restaurants et deviennent des vedettes. D'autres encore se mettent au service de la bourgeoisie. Et là, on a quelques grands chefs, Antonin Carême, par exemple. Pour comprendre qui il est, c'est l'équivalent de Pierre Cardin aujourd'hui. Des artistes, et qui vont alors, dans différentes cours du monde, designer, on dirait peut-être, dans une langage contemporain. Et les tsars de Russie sont des gens qui engagent en permanence ces très grands cuisiniers, notamment Carême. Et la bourgeoisie qui a pris le pouvoir en France, et qui a commandité le repas à la russe, en fin de compte, l'appel à la russe, parce qu'il y a des espèces de nostalgie, du prestige, des grandes cours. Quel paradoxe!
Jean-Pierre Poulin a dirigé le Dictionnaire des cultures alimentaires. C'est un ouvrage édité aux Presses universitaires de France.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'ai deviné fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupid on n'a pas décoché et j'ai continué à marcher. Déjà vu.
Chloé Pan, c'était Cœur croisé.
Les petits bateaux sur France Inter.
À propos de cœur croisé, j'aime bien aller prendre un petit café au comptoir, le matin, dans les bistrots. En général, il y a des hommes. Mais il y a une vraie mixité sociale, c'est peut-être d'ailleurs le seul moment et le seul endroit où des hommes de milieux très très différents parlent ensemble. Et de quoi parlent-ils? Un petit peu de politique, un petit peu de leurs femmes et beaucoup de sport.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 10 ans et je voudrais savoir depuis combien de temps le sport existe. Au revoir.
Oui, allô, je voudrais savoir depuis quand le sport existe. Je m'appelle Arthur et j'ai 14 ans.
Bonjour, je m'appelle Maya, je voudrais savoir c'est quand que le sport a été inventé. Merci.
Bonsoir Antoine, Arthur et Maya, c'est Georges Vigarello qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, vous irez peut-être un jour, qui va vous répondre. Alors depuis quand le sport existe, se demande...
On peut dire que le sport a toujours existé, il a existé en particulier lorsque les sociétés ont commencé à s'organiser et il a été l'objet de comparaisons physiques dans des courses, dans des luttes, dans des lancers, mais... Le mot « sport » n'a pas toujours eu le même sens. C'est là que la question devient intéressante. Parce que le sport de l'Antiquité ne concernait par exemple que les citoyens et pas les esclaves. Il ne concernait pas les étrangers non plus. Il concernait les Grecs en particulier. Or, aujourd'hui, le sport concerne absolument tout le monde. C'est une activité démocratique. Et tout même, le monde peut s'inscrire.
C'est même une espèce de tremplin social.
Et c'est dans un certain sens aussi, mais ça l'était sur l'Antiquité.
Ah bon ?
Les citoyens qui réussissaient bien étaient très fortement honorés, vous voyez. Mais la grande différence, c'est que effectivement, il concerne tout le monde. Et il ne concerne plus seulement qu'un seul pays, comme c'était le cas pour la Grèce, par exemple. Mais il concerne l'ensemble des pays, avec des règlements qui se sont universalisés. C'est dans ça que le sport est devenu une pratique extrêmement intéressante. Et les rencontres que sont les Jeux Olympiques ne sont plus du tout des rencontres limitées, par exemple, à un pays ou à quelques cités, comme c'était le cas dans l'Antiquité, mais on le voit bien, ils sont universels et ils concernent l'ensemble des cités. Et c'est en cela, je trouve, qu'il est particulièrement original comme pratique.
Donc en fait, depuis combien de temps le sport existe? On peut dire depuis toujours. Depuis toujours, il y a eu des compétitions, mais organisées entre plusieurs pays.
Organisées entre plusieurs pays tels que nous l'entendons aujourd'hui, c'est une véritable création. Et c'est une création qui remonte à la fin du 19e siècle. La date phare, ce sont les Jeux Olympiques de 1896.
Georges Vigarello est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a écrit... entre autres, histoire des pratiques de santé chez Point Poche. Les 15 et 16 septembre prochains seront les journées européennes du patrimoine. Vous pourrez visiter des châteaux, des jardins, Assemblée nationale et des tas de beaux endroits qui nous font rêver. Et aussi des endroits qui n'ont pas l'air beaux et qui pourtant sont intéressants. Vous pourrez visiter le métro parisien avec un conférencier qui vous racontera des anecdotes sur la création de ce métro. Vous pouvez vous inscrire dès demain sur ratp.fr/journée-au-pluriel-du-patrimoine. Tout ça en un mot, vous inquiétez pas, cette adresse est sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 5 ans et je voudrais savoir qui a construit les premiers métros. Au revoir et merci.
Bonsoir Nina, qui a construit les premiers métros? Je ne sais pas si tu parles des premiers métros dans le monde ou bien en France. Clive Lamming, c'est vous qui décidez puisque c'est vous qui répondez à Nina. Vous êtes historien du chemin de fer.
Eh bien voilà Nina, je prendrai dans le monde parce que les premiers métros ont été construits un peu comme Monsieur Jourdain.
Ah, je sais pourquoi. Parce que vous êtes anglais.
Un peu anglais jusqu'à la ligne de flottaison et français au-dessus. Je suis fils d'un anglais et d'une française, donc c'est très compliqué. Je suis une personne... je suis un immigré d'ailleurs, un immigré de luxe. Alors donc, je reviens à ces chers métros. Ce sont les Anglais qui ont fait ça sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que c'est en raccordant les lignes de chemin de fer sous Londres qu'on a finalement fait des métros sans le savoir. C'était des trains à vapeur qui passaient sous Londres et on s'est aperçu qu'en faisant des services omnibus à l'intérieur de Londres, sous Londres, c'était très intéressant. Le problème, c'est que les gens furent enfumés comme des harengs. Ces trains à vapeur dans les tunnels, on se voyait en tousser dans les stations, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est 1863, donc le Metropolitan Railway naît de services omnibus entre différentes gares qui étaient déjà dans Londres.
Donc en fait, Clive Lamming, on ne s'est pas dit, Faisons un métro pour circuler librement en ville. C'était déjà des trains qui...
On faisait des omnibus, on construisait des stations sous Londres pour... Si vous voulez, imaginez qu'à Paris, on ait raccordé la gare de Lyon, la gare du Nord, etc. Ben, on aurait fait des petites stations intermédiaires.
D'accord.
Alors, par contre, les vrais métros urbains reposent sur le principe du tramway qu'on met sous terre. C'est-à-dire, c'est plus petit, c'est électrique. Et là, on peut vraiment dire que Paris, en 1900, a donc construit un des tout premiers métros, des vrais métros urbains, avec la ligne numéro 1 du métro actuel, une sorte de tramway souterrain. On le descend de 4 à 5 mètres, il est peu profond. Alors que le métro de Londres est très 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 profond, parce que ses lignes à vapeur allaient très loin dans le sol, parce que le sol de Londres n'est pas solide, il est extrêmement friable.
Ah, c'est pour ça qu'on est allé creuser si loin.
On est allé creuser si loin. Même chose à Moscou d'ailleurs. Mais Moscou est un métro urbain comme celui de Paris, vous voyez, c'est-à-dire donc des métros électriques à petit gabarit, et qui s'arrêtent beaucoup. Ce sont donc réellement des tramways souterrains.
D'accord. Et Londres avait ses trains à vapeur, parce que c'était des trains
qui allaient. Alors, il y avait d'ailleurs, c'est très curieux, entre les stations, des sortes de puits où les vapeurs pouvaient s'échapper, et on voyait des grands nuages noirs qui sortaient entre des maisons. C'était des puits qui donnaient au milieu d'un pâté de maisons. Il y avait une cour avec un puits, et on voyait des fumées qui sortaient comme ça dans Londres, déjà très embrouillardées à l'époque. Donc, ça devait faire une atmosphère tout à fait mystique à la Orson Welles. C'était magnifique. Mais les Anglais ne font jamais les choses comme les autres.
Clive Lamming a écrit Métro insolite et c'est édité chez Parigramme. Ce que c'est charmant quand même les accents.
Il fait chaud. Ça sent le fantôme. Le swing, le fumier du printemps, première nature qui se loge lousse, qui abandonne. Il fait chaud, au baisse le chauffage du soleil qui rôtit nos peaux. On se chiffonne dans la journée, on se lance toutes comme des cinglés sur les plages de Chidiac ou de Capelet. Il fait chaud, les oiseaux sortis, je trouve ça bien trop beau, jusqu'à ce qu'ils me réveillent le samedi matin, puis que je pète ma coche, puis je vais tirer des roches. Il fait chaud.
Chaud, c'était Lisa Leblanc. Imaginez qu'en vous promenant comme ça dans la campagne, tranquillement, sur un chemin, au détour d'un bois, vous vous trouviez tout d'un coup face à un chimpanzé. Quelle tête feriez-vous ?
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 16 ans et j'aimerais bien savoir quelle est la réaction d'un chimpanzé quand il voit un homme pour la première fois.
Merci Camille pour cette question que nous avons proposée à une spécialiste des chimpanzés, Sabrina Krief. Vous avez écrit « Les chimpanzés des monts de la Lune », édité chez Belin et aux éditions Muséum. Vous êtes maître de conférence au Muséum d'ailleurs d'histoire naturelle. C'est intéressant cette question de Camille. Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce qu'on le sait?
Oui, je peux répondre. En fait, j'ai travaillé en milieu sauvage, donc je travaille toujours en milieu sauvage, sur un groupe de chimpanzés qui n'avaient jamais vu d'humains. Donc, dans cette zone, les chimpanzés n'étaient pas en contact avec des chercheurs et nous avons décidé de travailler dans cet endroit. Alors, il peut y avoir plusieurs réactions des chimpanzés. Soit ils sont ce qu'on appelle naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment jamais vu aucun humain et donc, dans ce cas-là, manifester soit de l'indifférence, soit de la curiosité. Ou bien ils peuvent avoir vu des humains et ces humains étaient principalement des braconniers. Dans ce cas-là, la première réaction est la fuite. Et puis après, il peut y avoir des réactions intermédiaires parce que les humains qu'ils ont pu croiser pouvaient ne pas être si dangereux que ça. Nous, dans la zone où on travaille, en fait, certains chimpanzés avaient sûrement déjà vu des humains puisqu'on est dans un endroit où il y a beaucoup d'activités humaines autour. Il y a une route qui traverse le parc. Mais malgré tout, la réaction des chimpanzés a été la fuite. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on travaille dans cette communauté. On arrive à les approcher au sol à 10-15 mètres, mais de façon générale, il faut 10 à 15 ans avant d'habituer les chimpanzés à la présence humaine, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient indifférents à notre présence, qu'on ne suscite ni crainte ni curiosité. Donc c'est un travail de patience, de persévérance, pour qu'à un moment donné, ils soient détendus en mangeant, en socialisant et que même ils nous tournent le dos.
Ah, carrément. Ça, c'est voilà, une belle confiance.
C'est le plus beau cadeau, en fait. C'est quand le chimpanzé nous tourne le dos. Magnifique. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, on n'utilise plus d'aliments pour les habituer à notre présence et pour essayer de les approcher. Et donc, c'est simplement les contacts répétés qui leur font gagner la confiance dans l'homme.
Vous avez parlé de fuite, jamais d'agressivité.
On n'a jamais eu de manifestation d'agressivité. Et même une fois, en fait, que cette habituation a été réalisée, on garde 5 à 10 mètres de distance avec les chimpanzés pour éviter de leur transmettre des maladies ou que nous en transmettre, mais aussi pour éviter ce contact physique qui leur ferait prendre conscience qu'ils sont beaucoup plus forts que nous et donc nous faire risquer une agression si jamais on s'interpose au sein d'un conflit ou si on a un comportement qui n'est pas adapté. Et donc ça fait 20 ans que je travaille avec les chimpanzés et je n'ai jamais été attaquée par un chimpanzé sauvage.
Merci Sabrina Krief. Vous pouvez réécouter cette question ainsi que toute l'émission des petits bateaux en allant bien entendu sur notre site. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Vous pouvez la podcaster, la télécharger, l'écouter et la réécouter. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Jean-Baptiste Audibert et Pierre-Yves de Rolin, Marjorie de Voucoux, Eliane Girard et Noël Bréham. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.